Alors, Shabbat, vous avez envie de vous bronzer, est-ce que vous avez le droit, oui ou non? C'est là la question.
Oui, on a le droit, mais en principe, c'est pas une bonne
kavana. Bon, comme vous savez, si on faisait des examens, vous savez que je mets zéro quand on me dit oui ou on me dit non. C'est, si on me donne pas de raison, ça n'a aucun intérêt de répondre à une question oui ou non. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Si vous savez, vous savez. Si vous ne savez pas, dites « je ne sais pas ». Puis-je parler? On y va. On a le droit ou pas de se bronzer?
En principe, on a le droit.
Pourquoi? Pourquoi on aurait le droit? Pourquoi on n'aurait pas le droit ou le droit?
Non, c'est-à-dire on a le droit. On est là, on s'est comme ça au soleil.
Oui, on parle. Oui, vous avez une piscine à la maison, ça change rien. On parle pas de quelqu'un qui comme vous dites, vous voyez en marchant, il se fait brûler par le soleil parce qu'il habite trop loin. On parle de quelqu'un qui, avec intention, il s'allonge au soleil le Shabbat, avec une bière fraîche à côté de lui, et un livre pour faire semblant de montrer qu'il étudie.
En principe, c'est pas comme
il se bronze, voilà.
C'est pas comme vous dites, de se bronzer le Shabbat.
De bronzer? Bon, alors je vous réponds. Maintenant, pour connaître la halakha, il faut avoir des éléments. Comme vous n'en avez pas, alors vous bafouillez. Vous balbutiez. Vous balbutiez parce qu'il vous manque des éléments. La réponse, elle est comme ça. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch qu'une femme n'a pas le droit de passer sur le visage de la poudre rouge. La poudre rouge. Comme faisaient les Égyptiennes. Hein? Femme égyptienne, elle mettait des poudres rouges, ça faisait des boules d'ici. Pourquoi?
Au soleil,
non,
pour colorer la peau.
Alpanea. Donc on n'a pas le droit de se mettre du srak, c'est de la poudre rouge sur les pommettes. Pourquoi? Michoum, pourquoi on n'a pas le droit?
Se teindre, se colorer la peau.
Colorer, à cause de la de ce qu'on appelle un des 39 travaux qui s'appelle teindre. Enfin. Ah oui, ça s'appelle teindre. Mais non, c'est de rabbanade, c'est pas d'oraïta, c'est que la teinture de la laine qui aurait été interdite. Ce qu'on utilisait pour le mishkan. Enfin. Alors les rabbins, ils ont étendu ça à toute teinture, même qui s'éloigne du Beth Amikdash. Jusqu'à tel point qu'on parle même de teindre des aliments. Si on a le droit de teindre des aliments. Si vous avez le droit de mettre du... Quand vous mettez du vin rouge et du vin blanc, théoriquement, il faut mettre le vin rouge avant le vin blanc. Pour diluer le blanc dans le rouge, et non pas colorer le blanc par le rouge. Donc on voit bien que dans les 39 travaux de Shabbat, vous avez plusieurs conséquences. Ou alors, sauf votre respect... Tirer une chasse où il y aurait un truc bleu, vous savez là? Non, c'est une question. Je ne dis pas qu'on a le droit ou pas le droit. Je vous dis que c'est une question qui est liée avec le principe de teindre. Tout ça, c'est lié avec le principe de colorer. D'accord? De quoi? Vous parlez de la chasse maintenant? Vous voulez tout savoir? On est sur la. Pour l'instant, on est sur la. On est sur le maquillage. Ne mélangez pas le maquillage et les toilettes. Chaque chose en son temps. C'est vrai qu'une femme, en général, dans les hôtels, elle se marie dans les toilettes, elle se maquille dans les toilettes avant de sortir pour être présentable. Donc, pour quelle raison le Shulchan interdit à une femme de se mettre du srak sur la figure, sur le visage? C'est parce que ça peint. D'accord? Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de décisionnaires qui permettent, parce qu'ils disent que de toute façon, ça ne va pas tenir longtemps et que de toute façon, il faut que... Les femmes, si elles ne sont pas comme ça, elles vont être malades tout le Shabbat, si elles se sentent blafardes. Alors, il y en a qui permettent le théâtre à la sortie des synagogues. D'accord? Pourquoi? Parce que le srak, ils disent que le srak qu'elles utilisaient, la teinture qu'elles utilisaient sur le visage, il tenait des semaines. Un peu comme le creul que les femmes mettent, vous voyez? C'est très très fort comme teinture, ça ne bouge pas des semaines. Ou le creul, le truc cajal noir. Mais quoi, tout je connais, vous voulez que je vous parle de. C'est normal, non? Quand on parle quelque chose, il faut savoir de quoi on parle. Tout je connais le cajal, vous voulez que je vous parle d'autre chose encore plus vicieux? C'est normal. Est-ce qu'on a le droit ou pas le cajal, le creul? Alors si c'est du vrai creul arabe, c'est interdit, parce qu'il est effectivement très fort. Voilà, il ne bouge pas. Alors aujourd'hui, on permet les maquillages modernes parce qu'ils sont, ils tiennent pas, plus que 24 heures. Donc c'est, les khatrilas, c'est pas une peinture qui tient. Or une peinture, c'est fait pour tenir. Si vous mettez une, si vous teignez une, un manteau pour qu'il, dès la première pluie, la teinture s'en va, vous êtes mal. Donc les khatrilas d'aujourd'hui, ils ont dit que ça n'a rien à voir avec la, le srak même de l'époque. Hein. Les Fertiti, quand elle mettait du srak, c'était pour tenir des semaines. Ça ne bougeait pas là. Ça tenait très fort le srak qu'elle mettait les femmes d'avant. C'était ma masse de la teinture. Alors maintenant, on vient à établir le rapport avec le bronzage. Donc, de la même façon que teindre la peau, est interdit quand cette teinture va tenir, donc, nous tombons dans le bronzage. Puisque le bronzage, ce n'est pas pour 24 heures, a priori, c'est pour plusieurs jours. Et à ce moment-là, donc le bronzage volontaire serait donc interdit. Le bronzage volontaire serait interdit. Voilà, et vous auriez dit, ah, mais elle ne fait aucun geste. Là, on a parlé du srak, la femme, elle le met avec les doigts, ou avec un pinceau. Donc là, vous auriez pu dire, attends, c'est pas pareil. Là, je ne fais aucune peula, je ne fais aucune action directe, c'est le soleil qui travaille pour moi. C'est pas moi qui me peins avec le soleil. Vous auriez pu dire, donc ça ne ressemble pas, et donc ça serait permis. Mais la raison pour laquelle on l'interdit quand même, c'est parce que on voit ça des lois de pureté et d'impureté. Quelqu'un qui est impur Shabbat, Nefertiti, quand elle met... Au temps du Beit HaMikdash, il devait quand même pas aller se purifier. Bien qu'on ne voit pas dans son trempage qu'il se purifie. Quand vous voyez quelqu'un se tremper dans l'eau, vous ne pouvez pas déceler du fait qu'il se trempe, qu'avant il était impur et maintenant il est pur. Vous ne voyez pas la différence. Et pourtant, là, quand même, il est interdit. Parce qu'il s'arrange lui-même par son trempage. Bien que, à l'extérieur, on ne voit pas du tout son action. C'est pas que quand il sort de l'eau, il a changé de couleur. La preuve, c'est qu'il pourrait faire ça dans un fleuve. Donc, ça veut dire que une réparation de quelque chose est interdite de Shabbat, même si on ne voit pas qu'on répare. Canal, pour un keli que vous voulez tremper dans un miguvé. Vous voulez Shabbat tremper un keli dans un miguvé pour pouvoir manger dedans. Quand vous allez faire une belle jardinière de légumes et votre mari a oublié de la tremper la veille. Donc il dit, non, ne t'inquiète pas, je vais tout réparer. Demain matin, je vais au miguvé, je trempe la jardinière, comme ça pour midi, pour mettre le... Alors, le Shulchan Aruch, il permet de faire ça, mais aujourd'hui, on le permet pas, parce que le Shulchan Aruch, il parle du temps où les miguvahot, c'était comme des bains de rue. C'est-à-dire que les gens allaient chercher de l'eau dans les bains. Vous comprenez? Les bains qu'il y avait, c'était des bains qui étaient des sources pour éviter de se casser la tête. On construisait un bain là où il y avait une source. Et donc, en même temps que les gens allaient chercher de l'eau, il y avait le bain pour se laver ou pour se tremper au miguet. Ça faisait tout usage. Donc à l'époque, le Shulchan Aruch permet parce qu'il dit, en vérité, tu vas faire un trick. Tu vas faire un trick, tu vas prendre ton keli, tu vas faire semblant d'aller chercher de l'eau dans ce mikvé qui est en vérité le puits du village. Donc, en même temps que tu prends de l'eau, comme par hasard, tu le trempes trois fois. On voit pas que tu arranges le keli. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus parce que justement, aujourd'hui, comme nous avons l'eau courante à la maison, donc c'est évident que si vous rentrez dans un mikvé, ça n'est que pour vous tremper, c'est pas pour aller chercher de l'eau. Donc on voit bien qu'une action qui est une action qui répare quelque chose, même si ça ne se voit pas, même si vous ne faites pas d'action elle-même, c'est interdit. Et donc à ce moment-là, ne dites pas que le soleil, c'est pas moi qui bronze, c'est le soleil qui me bronze. Ça, c'est interdit. Maintenant, comme vous avez dit vous, si jamais la personne ne veut pas se bronzer spécialement, elle veut simplement se mettre au soleil, parce qu'elle aime le soleil, pas parce qu'elle veut être bronzée, parce qu'elle veut se mettre au soleil, alors là, on va le voir. Donc c'est une question d'honnêteté, quoi. Si la personne veut se bronzer, elle n'a pas le droit. Si la personne veut s'allonger au soleil, là, elle aurait le droit, ça va. Mais quand même, parce qu'elle ne cherche pas le bronzage, elle cherche la chaleur du soleil. Et ne me demandez pas à moi, je fuis le soleil, vive la neige et vive la pluie. Je ne supporte pas le soleil à 3 km. Donc justement, si vous sentez vous bronzer alors, non, c'est pour ça qu'on vous fait ce rilouk si vous êtes malhonnête. Voilà. Vous êtes mis sur la mer Pesset. Il se trouve qu'il y a un beau soleil. Et qu'en discutant, en papotant sur la mer Pesset avec votre limonade, il se trouve qu'effectivement vous allez un peu bronzer, effectivement. Alors, comme votre kavana n'était pas de bronzer, on va pas, c'est un problème de rabbana, on va pas aller jusque-là. Mais s'allonger dans l'intention claire de bronzer, alors on vous dit non. D'accord? Pas de question? Il m'a pas prévenu, s'il est en route. Là. Non, là, il est en studio, je pense qu'il fait. On peut y aller, on peut parler. Là, ils sont dans le bureau. Bon, là, Michel. Voilà. Vous voulez encore? Non, c'est pas la peine. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ben tant pis. Pas de questions. Surtout que le soleil arrive maintenant, donc c'est important de savoir ça, quoi. Voilà. Pas d'autres questions? Quel rapport au maillot? Vous avez dit que si vous faites exprès... On aurait le droit si on ne sait pas pour se bronzer. Pardon? Pas de questions? Voilà, pas difficile. Alors, il y en a qui effectivement font. Il y en a qui font. Qui interdisent encore plus à cause du risque de crème. Que des fois, les gens se disent.
Alors, en fait, mettre cette crème, comme elle ne tient pas.
Pourquoi? Non, la crème, c'est un autre problème. C'est pas une question de colorer, c'est une question de. C'est quoi l'interdiction de la crème Shabbat? Pourquoi étaler? Vous n'avez pas le droit d'étaler? Vous n'étalez pas du chocolat sur la tartine? Non! Et alors, quel problème d'enduire? C'est quoi la malakha d'enduire? Je vois que vous n'êtes pas spécialiste des lois de Shabbat. Vous devez savoir les halakhot. Quel est le makor? Quel est la nekuda de d'enduire? C'est quoi? Quel travail c'est? Non, peindre dans la vie, ça. Peindre, ça c'est quand couleur. Là, ça colore pas. La crème est incolore. Quel est le problème? On n'en disait pas les murs. C'était des tissus, le mur. Alors, c'est quoi la mlacha de d'enduire? Eh ben, c'est le travail de tanner la peau. Madame Schubert est tellement contre les lois de Shabbat qu'elle ne va même pas faire l'effort de voir le rapport qu'il y a. Et comme elle n'a jamais mis, bien qu'elle soit d'origine polonaise, elle n'a jamais mis les pieds chez un pelletier à Paris, elle n'a jamais vu que pour tanner une peau, on l'enduit de salpêtre d'abord. On la ramollit au salpêtre. De mauvaise foi, c'est rarement vu, ça. Quand vous tannez une peau, d'accord? Vous tannez une peau. Vous voyez qu'un vison, il est doux. Parce qu'il est sur vous. Il est doux parce qu'on l'a tanné. On l'a enduit. On a mis de la crème dessus. Enfin, de la crème. En réalité, c'est de l'acide qu'on met. Pour ramollir la peau. Et de là, on apprend que tout ce qui est un produit qui ramollit la peau, qui enduit, c'est un rapport que, donc là, c'est la melakha de Me'abed. Ça veut dire tanner la peau.
Et on
ne
veut pas la, comment
on va
l'endoucir, on
veut la renforcer. Non. Que vous l'endoucissiez, la renforciez, c'est évident que vous essayez d'agir sur la peau. Ne me racontez pas de l'histoire de grand-mère. Elle est tellement de mauvaise foi qu'elle ne l'admettra pas. C'est évident que et une chaussure, vous voulez la durcir quand vous la serrez, vous voulez au contraire, vous voulez la ramollir. Mais maintenant, c'est toujours le principe du principe du tannage. Le tannage, c'est soit ramollir, soit durcir. C'est travailler la peau, comme il faut. Non, même pour la peau, on n'a pas le droit. Ah voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ah, voilà, vous n'avez pas le droit d'enduire. Vous mettez dans la couche, vous le mettez sur le toussic, un peu de pommade, et après, quand vous fermez, sans étaler, ça va s'étaler par le mouvement du tissu avec la fesse du bébé. Ou alors, sur une blessure, par exemple. Vous mettez la pommade sur la blessure, après vous mettez une bande, et donc ça va se faire tout seul. Comme c'est des rabbanans, mais si c'était vraiment d'Oraïta, si c'était vraiment le travail originel du Beth Amikdash, c'est sûr que je n'aurais pas le droit de jouer avec ça. Mais comme ça n'est que de rabbanan, donc les rabbanans n'ont pas fait une zéra à ce point-là, ils ont interdit à la main, de jouer avec les mains, de faire ça. Et si vous la mettez après, vous fermez, vous voyez? C'est une gymnastique. Non, ils ont tout à fait raison, les rabbanan. Arrêtez de nous saouler! Ben oui. Qui? Ben justement, il faut que l'humanité entière qui nous écoute sache. Je ne dirai pas votre nom pour que vous ne soyez pas grillés sur la planète. Voilà. Donc c'est évident qu'il faut avoir de l'imagination. Il faut se enlever la représentation exacte du Mishkan et s'éloigner en voyant le rapport dans l'image. Quelle image ça représente? Voilà. Comme disait le proverbe, c'est plus le Shabbat qui nous a gardé que nous avons gardé le Shabbat. Voilà. Je ne vous lâcherai point. Et il vaut mieux pas que vous fassiez un bras de fer avec moi. Je suis très têtu. Allez! Non, parce qu'il faut que ça rentre. Non, surtout que quand on est de bonne foi, on se rend compte qu'effectivement, il y a une énorme similitude entre les travaux à l'origine, dans le Mishkan, et les interdictions des Rabbanan. Il y a une similitude. Ça n'a pas une ressemblance exacte. Par contre, le salpêtre, ça ne ressemble pas à la crème Nivea, bien sûr. Et la peau de mouton ne ressemble pas à la peau d'un bébé ou d'un individu. Mais le principe, le résultat qu'on cherche à atteindre est le même. Voilà. Cette semaine, on va lire le parasha de Bamidbar. D'accord ? Et la parasha de Bamidbar, c'est la parasha qu'on lit tout le temps avant la fête de Shavuot. Toujours. Obligatoirement. Shavuot, on lit la parasha de Bamidbar juste avant. Donc il arrive quelquefois qu'il y ait Nassau au milieu ou Nassau après. Bon, mais en tout cas, Bamidbar est toujours quelques jours avant Shavuot. Et c'est une chronologie qu'on a besoin de comprendre. Pourquoi les Chachamim en question, que vous aimez si peu, ont fait des... Pourquoi les Chachamim ont pris la peine d'instaurer, de lire toujours Bamidbar avant Shavuot? Alors, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que nous, dans la tradition, on appelle le livre ou la paracha, on l'appelle Bamidbar, ce qui signifie « dans le désert ». Dans le désert. Mais si vous avez remarqué, vous qui êtes des femmes savantes, même si vous êtes parfois réticentes à certaines notions, vous êtes des femmes savantes. Or, dans les Septante, les Grecs, quand ils ont traduit la Bible en grec, Ils ont appelé ça les 70. Pourquoi 70? Parce qu'il y avait 70 sages. Et en français également, on ne dit pas le livre Bamidbar, on l'appelle comment? Comment on l'appelle en français? Les comptes, les nombres. On l'appelle le livre des nombres. D'accord? Les septembre, ils appellent ça numéris. Le livre des comptes. Le livre des nombres. Donc ce qui est important dans ce Sefer, en fait, c'est pas d'après la traduction, d'après l'interprétation, c'est pas le fait qu'ils soient dans le désert qui est important. Mais c'est le compte. Effectivement, on ne fait que compter dans cette paracha. C'est très rébarbatif. Il n'y a aucune histoire dans cette paracha. Il n'y a aucune histoire, il n'y a que des comptes. C'est très ennuyeux, quoi. Pour celui qui ne comprend pas ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a derrière. Et donc, pour quelle raison, premièrement, nous, on appelle ça Bamidbar, alors qu'on aurait dû l'appeler les comptes, les nombres. Vous voyez bien que Bereshit, par exemple, nous, on l'appelle Bereshit, et les septante l'appellent la Genèse. Donc, c'est la traduction. La Genèse, c'est le début, comme Bereshit. Donc, on voit bien que quand il arrive quelquefois que les Grecs ont traduit exactement le terme qu'il faut. Bereshit, la Genèse. Alors que Bamidbar, ils l'ont appelé les comptes. Les nombres. Le livre des nombres. Donc, nous, on appelle ça le désert, dans le désert. La tradition étrangère l'appelle, qu'on retient d'ailleurs, parce que aucun des rabbinim du monde a dit qu'il ne fallait pas appeler ça en français les nombres. Quand ils ont traduit le Kumash en français, je ne suis pas gêné de dire les nombres. Personne n'a dit « Ah, Chas v'Shalom, c'est des chrétiens !» Non, c'est la traduction grecque. On l'accepte. Et maintenant, troisième élément intéressant, c'est que, puisqu'on lit ça avant Shavuot, Shavuot, on a reçu les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, si vous avez fait attention, tous les 10 commandements sont tous dits à la forme singulière. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu ne tueras point. Rappelle-toi du Shabbat. Honore ton père et ta mère. Il y a toujours. On parle au Yachid, on parle au singulier, on ne parle pas au pluriel. On aurait dû dire je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est sorti. Vous n'aurez point d'autre Dieu. Vous respecterez le Shabbat. Pourquoi on parle au singulier, on parle pas au pluriel. Tous les 10 commandements, il n'y a pas écrit « Lotir Tsechou ». Vous ne tuerez point. Il y a écrit « Lotir Tsar », tu ne tueras point. D'accord ? Vous avez fait attention à ça ? Tous les 10 commandements sont au singulier et pas au pluriel. D'accord ? Alors quel est le lien entre... Quel est le fil qui relie toutes ces choses-là ? Le principe d'appeler ça « Nubamidbar », les goyim l'appellent Septembre, l'appel des nombres, les 10 commandements sont au singulier. C'est que, d'après le Midrash, le Kabbalah, la Chassidut, etc., on véhicule la même idée. L'idée que ce qui est important quand arrive la période de Shavuot, c'est que chacun soit. Importe, soit lui-même. Chacun existe. Quand on parle du peuple juif qui va se situer au pied de la montagne, etc., et qui va arriver dans le désert du Sinaï, on veut mettre l'accent sur le fait que chacun est important. Chaque individu est important. C'est pour ça qu'on cite chaque compte en tant qu'individu existant. On ne fait pas un amalgame en disant bon, c'est pas grave, combien vous êtes dans la famille, vous êtes 5, on n'en a compté que 4, ou j'en ai compté 6. Non, il faut que chacun soit compté pour lui-même. C'est pour ça qu'on a utilisé d'ailleurs les demi-cycles. On a utilisé le Machatzit HaShekel pour pour faire le recensement des Juifs dans le désert. Donc on vous dit que c'est la raison pour laquelle on lit cette paracha et qu'elle est ennuyeuse, parce que on ne veut pas bâcler l'importance de l'individu. On veut montrer que l'individu, c'est tout. Donc il faut que chacun soit là. C'est pour ça qu'on vous dit, voici les familles de Réhouven, les Mishpechotam, les Betavotam, par leur famille, d'après leur maison paternelle. Et on dit, ils étaient 300 000, tatatata, on vous donne exactement le chiffre de chacun. Ça veut dire que on vient vous dévoiler quelque chose, que contrairement à l'idée reçue, que partout on parle du Ham Israël, le peuple. Enfin, vous auriez le peuple, c'est-à-dire le peuple, s'il en manque, il y en a un peu plus, un peu moins, c'est le peuple. Il est toujours là, le peuple. Mais non, le peuple, il est important par le fait qu'il est fait de chacun. Donc chacun doit dire, moi je suis fondamental. Je suis compté dans la paracha. Mon nom est installé dans la paracha. Je ne suis pas en virgule. Je suis compté là-dedans. Mishperotam et Metavotam. Et donc, ça donne une notoriété, une valeur à chaque individu qui existe. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on fait un rapport entre le Matan Torah et Rosh Hashanah. De la même façon qu'à Rosh Hashanah, tout le monde est jugé. De la même façon, à Shavuot, tout le monde est présent. Et pas seulement tout le monde est présent, on vous dit que non seulement est présent les gens vivants, même ceux-là sont présents, c'est évident, mais même les morts sont présents, même les enfants qui vont naître sont présents, les futurs Neshamot qui vont entrer dans les corps sont présentes, et tous les guéris, tous les convertis qui vont arriver sont aussi présents. C'est qu'on ne... Comme le Matan Torah, c'est un point qui est au-dessus du temps, donc il ne s'agit pas seulement de juger le présent, de donner la Torah aux gens présents, il s'agit de donner la Torah même à ceux qui ne sont plus là, et même à ceux qui vont arriver. On est au-dessus du temps. Donc si on est au-dessus du temps, on peut même envisager déjà l'avenir. Donc le fait que dans 10 ans, il va y avoir un petit enfant qui va naître, hein, ou que dans 6 mois, il va y avoir un converti qui va obtenir la conversion, hein, qui va obtenir l'acceptation du Beddin, cette chose-là, elle est déjà inscrite à Shavuot. Plus les gens disparus. C'est comme Rosh Hashanah. Et ça, on vous dit, ça se compte. Chacun est compté là. Vous pouvez pas dire, bon, allez, ça va. Combien il y avait de gens au Sinaï? À peu près, grosso modo, 600 000, 500 000, allez, va, on va vous faire un prix. Pas du tout. La paracha est ennuyeuse à cause de ça. C'est parce qu'elle vous compte les gens à l'unité. Elle vous dit, la tribu de Réhouven, il y avait 35 625, il n'y avait pas un de plus, un de moins. Et donc, étant donné que la Torah ne vous parle que des troncs, des branches, Mishperotam et Betavotam, elle parle du tronc, donc chaque tribu est liée avec toutes ses branches, c'est-à-dire tous les ancêtres qui sont déjà là-bas, tous les enfants qui vont naître, tous les guéris qui vont arriver. Donc, il n'y a pas que ceux qui étaient au Matan Torah qui reçoivent la Torah. Sinon, il y aurait une question. Pour quelle raison un enfant qui va naître dans 10 ans, il aurait un rapport avec la Torah? On aurait décidé à l'avance qu'il aurait un rapport avec la Torah. Peut-être qu'il n'en aura pas. On dit oui, il a un rapport avec la Torah parce qu'il a reçu la Torah, il la reçoit tous les ans avant même d'exister. Avant même d'apparaître dans un corps physique devant vous. On compte toutes les Neshamot Exactement. Toutes les neshamot, même si elles ne sont pas inscrites dans des corps. Exactement. Donc, on voit que c'est pour ça qu'on lit Bamidbar. Pour vous dire que, quand, au moment où vous lisez ces psukim, vous appelez toutes les âmes qui vont venir et qui sont venues à recevoir la Torah, à se présenter au matin de Torah. Les Itiatsev, c'est pour ça qu'on dit les Itiatsev, se présenter au matin de Torah. Comme un recensement. Quand il y a un recensement, même en Europe, quand ils ont fait des recensements de population, ils ont été très scrupuleux que tout le monde. Voilà quoi. Sinon, ça fausse tout. Chaque fois. Donc, dans le désert, Moshe Rabbeinu a utilisé le principe du demi-cycle. Marzit HaShekel, chacun a donné son nom à Marzit HaShekel, et donc, chacun a su. Enfin, on a su exactement combien il y avait de jours. Pardon? Non, je vous ai dit, c'est des troncs. C'est des troncs, les gens qui sont là. Parce que c'est un tronc. Dans un tronc, vous avez à l'avance toutes les branches qui vont pousser dans 50, dans 100 ans. Dans un arbre. Enfin, même si vous ne voyez pas la branche dans 3 ans, elle est déjà ici, dans ce tronc-là. Elle tire déjà dans les racines, son origine. Ça va que c'est que l'eau et le temps qui vont dévoiler cette nouvelle branche. Donc c'est vrai que le nombre de neshamot ne changera jamais. C'est exactement, c'est toujours le même nombre de neshamot, mais qui se découpe en tant et tant de corps. Et donc c'est très important de savoir que au matin de Torah, tout le monde est là. Alors d'un autre côté, donc ça met l'accent sur l'individu. Chaque individu est fondamental. Chaque individu ne peut pas dire, bon, tu sais quoi, matin de Torah, j'ai rendez-vous, je suis pas là, ok, d'accord, tu me lâches, les mitzvot de Ravanan, tu me laisses tranquille, moi j'ai rendez-vous le jour du matin de Torah. Si un jour j'ai besoin du bon Dieu, je verrai, mais pour l'instant je ne m'intéresse pas, donc si Dieu m'appelle, dis, je ne suis pas là. Alors on te dit, mon collègue, ça ne marche pas, puisque même si tu n'es pas là, tu es quand même là, puisque tu es recensé. Hein? Comme c'était dans l'armée à l'époque où il y avait des guerres en Israël. Hein? Quand il y avait des guerres, il y avait un exercice de recensement permanent pour toujours atteindre les gens, pour savoir pour les joindre dans les 24 heures. Hein? Alors, même s'il n'y avait pas de guerre, bon, sans arrêt, on remaniait le calendrier pour être sûr que telle personne elle a quitté le pays ou elle n'a pas quitté le pays ou elle habite Haïfa ou Tel Aviv. Donc ça veut dire que tu sois, qu'il y ait une guerre ou qu'il n'y ait pas de guerre, c'est-à-dire que tu viennes au matin de Torah, que tu ne viennes pas au matin de Torah, ça n'a aucune importance, on te recense, on sait que tu es là. Donc tu es marqué comme étant présent. Même s'il n'y a pas accepté le rendez-vous du matin de Torah. Donc c'est très responsabilisant, ça veut dire que même si vous n'avez pas envie, d'accord, d'être juif et de faire ce que Dieu demande, vous êtes quand même inscrit sur la liste. Et d'un autre côté, ça vous donne en même temps une responsabilité de dire que comment puis-je ne pas être là? On attend mon action. On peut pas se débiner devant un tel honneur d'être censé. Mais il est idagissa. Non, genre, le sang fait à toutes les fêtes. Parce que justement, au moment des fêtes, comme au moment de. On montait au temple, toutes les neshamot venaient au temple, même celles qui n'étaient pas vivantes. C'est pour ça que dans les kehilotes européennes, on fait 40 neshamot le jour des fêtes, parce que le jour de la fête, toutes les neshamot descendent aussi au fond de là. L'homme échappé. Maintenant, il y a une autre question de l'autre côté. C'est ce que je vous ai dit au début sur les 10 commandements. Les 10 commandements ne sont pas au pluriel, ils sont au singulier. D'accord? Or, le Ramban, Nachmanide, nous dit que, un grand klal que vous connaissez toutes, que quand la Torah parle au pluriel, elle parle à chacun. Quand elle parle au singulier, elle parle à tout le monde. Vous avez compris? Ça veut dire que quand je dis pour la mitzvah du loulav, par exemple, de Sukkot. Je dis que chacun doit prendre son loulav. Je peux pas dire, tiens, rends-moi quitte, je suis pas là, hein. Fais-toi pour moi la mitzvah du loulav. Ou alors tu fais la bracha et je te regarde. On peut faire ça pour le chauffard, on peut faire ça pour plein de trucs, mais le loulav, chacun doit le secouer. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit « Ulkartem lachem », vous prendrez pour vous. Comme il y a écrit « pour vous », ça veut dire « chacun ». Si il y avait écrit « Ulkarta lecha », tu prendras pour toi, ça veut dire « il suffit que le Beit Din prenne le loulav » ou qu'une keila dise « nous on s'occupe du loulav, vous pouvez rester dormir », ça aurait marché, parce qu'il y a écrit « Ulkarta lecha ». Et ici, il y a écrit « Ulkartem lachem », vous prendrez tous. Si vous prendrez tous, ça veut dire « chacun ». Et donc la question est sur le 10 commandements. Les 10 commandements, qu'est-ce qu'il y a écrit? Tu ne tueras point, je suis l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire que je m'adresse à tous, donc en vérité pas à chacun. Je ne m'adresse pas à chacun, je m'adresse à tous. C'est d'ailleurs l'argument de Moshe Rabbeinu. Vous avez entendu parler de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est son argument en tant qu'avocat. Avocat, quand Dieu a voulu exterminer le peuple juif après le mot d'or, il leur a dit maintenant, mais à qui tient de la Torah? À moi. Tu m'as dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu ne tueras point. C'est moi qui ai parlé. Si tu voulais leur parler à eux, tu aurais parlé au pluriel. Le fait que tu as dit au singulier, c'est que tu t'adressais qu'à moi. En tant que représentant du klal. Donc, le représentant du clan, j'ai pas eu le temps encore de les informer de ce qu'on doit faire, donc tu m'adresses, tu parles à moi, donc tu ne peux pas les condamner. Donc on voit bien que même dans l'argumentation de Moshe Rabbeinu, le matin de Torah était une relation générale, pas au niveau individuel. Alors ça contredit ce qu'on a dit sur Bamidbar et matin de Torah. Bamidbar, tu lui as dit chacun est appelé. Et personne ne peut dire, moi, je m'en fiche du matin Torah. Comment tu t'en fiches? Tu es marqué. Ton nom est dans la paracha. Tu fais partie de la branche de Reuven, Shimon, ou... Donc tu es dans la... On t'a convoqué pour le matin Torah. Maintenant, tu viens me dire, attends, on t'a convoqué, mais... Mais on t'a pas convoqué individuellement, on a convoqué le peuple. Tu ne tueras point, c'est tout le monde. Tu feras Shabbat, c'est une mitzvah de la communauté juive, c'est pas forcément de l'individu. Donc c'est une question. On répond qu'il y a, on peut marier les deux choses en même temps très facilement. C'est qu'il arrive quelquefois que quelqu'un ne peut pas effectivement se présenter à son obligation. Quelqu'un peut ne pas être apte à remplir une mission qu'on lui confie. Soit parce qu'il a un yetzerara trop fort et qu'il n'est pas intéressé à faire cette mission que Dieu lui demande, soit parce qu'il n'est pas, il est occupé à autre chose. Il peut y avoir mille raisons qui font que, à l'appel de Shavuot, quelqu'un va dire, je m'excuse, je ne suis pas là. Alors on va dire, attends, mais si tu es inscrit, tu ne peux pas dire, je ne suis pas là. Alors il va répondre, en vérité, nous sommes solidaires. Il va répondre, nous sommes solidaires. C'est-à-dire, c'est vrai que moi, je dois aussi faire mon travail individuellement, et du fait qu'on est tous ensemble dans le même bateau, même si j'ai des occasions où je ne peux pas réaliser ce qu'on me demande au niveau individuel, par le fait que je me sens solidaire avec les autres. Le fait que je me sente solidaire avec les autres, ça me sera compté comme si j'avais fait moi aussi la chose. Ça, pas seulement ça l'acquitte, ça le... Oui, ça l'englobe, ça le fait rentrer dans le même devenir, la même vocation que les autres. Pourquoi? Parce que il arrive qu'il y a un problème entre choisir, Je suis dans le clan, mais je ne peux pas faire partie du clan. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, rassure-toi, la Torah a été donnée au niveau « tu ne tueras point », etc. pour dire « c'est une mitzvah qui touche à tout le monde ». Et il se peut que toi, elle ne te touche pas à ce moment-là. Tu n'es pas capable de la réaliser, par exemple. Donc, si tu n'es pas capable de la réaliser, ne crois pas que, puisque tu n'as pas pu la réaliser, c'est comme si on t'a coupé un bras. Non, ne t'inquiète pas, tu es inscrit. Tu es inscrit, donc tu seras aussi compté dans les gens qui l'ont réalisé. Du fait de la solidarité. Ça veut dire que chacun ne peut pas tout faire. Personne ne peut tout faire, d'accord ? Comme personne ne peut tout faire, le mérite de celui qui sait prier, par exemple, ou celui qui est, le mérite de celui qui est riche. Par exemple, il y a des gens, il y a quelqu'un qui m'a raconté ça, quelqu'un qui a des problèmes de parnassa, gros problème d'argent, et ça embête surtout sa femme plus que lui, d'avoir toujours le frigidaire vide. Et dans quelques situations qui se mettent, il est toujours dans la misère. Quand il choisit un domaine soi-disant enrichissant, il ne gagne pas d'argent. Dans tous les cas de figure, il est toujours pauvre. Et il se trouve que, donc, sa femme étant très embêtée par ça, il a écrit dans le livre de Igrot Kodesh, et le rabbi lui répond, c'était terrifiant comme réponse, le rabbi lui dit, puisque par providence, vous ne pouvez pas faire la tzedaka matérielle, c'est donc que vous devez la faire spirituellement. Donc, c'est-à-dire, boum! Il lui annonce que jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à nouvel ordre, il n'a pas d'argent. C'est ça que ça veut dire. Puisque la providence prouve que vous n'avez pas d'argent pour la tzedaka financièrement, donc c'est donc une preuve que vous devez la faire spirituellement. Ça veut dire que lui, il est décrété jusqu'à nouvel ordre. Bon, ça peut changer d'un moment à l'autre. La xéra peut disparaître. En tous les cas, elle est là. Et comme elle est là, donc c'est très fâcheux parce qu'il ne peut pas réaliser la tzedaka matérielle. Alors, qu'est-ce qui se passe si il n'était pas inscrit dans la parasha de Bamidbar? Alors, on aurait dit, voilà, au niveau du klal, les 10 commandements, 99% ont fait cette mitzvah, mais toi, tu fais partie de ceux qui ne la font pas. Et on lui répond non. Bien qu'on a parlé au klal, et donc on aurait pu exclure des gens du groupe, toi, on va quand même te mettre dans les gens méritants, dans ceux qui ont donné la tzedaka, bien que tu ne la donnes pas, parce que tu es inscrit dans ma mitzvah, donc tu es solidaire, tu t'es raccommodé avec les autres. Parce que chacun a sa spécialité, chacun a sa faiblesse. La plupart des gens ne savent pas prier, d'accord ? Alors si on comptait sur eux pour faire tenir le monde par la prière, le monde se serait déjà écroulé. Donc comme ils se reposent sur ceux qui savent prier, donc ils bénéficient du mérite, pas seulement du mérite, des résultats de la prière. Comme s'il avait fait la prière lui-même. Où tout le monde ne sait pas étudier ou ne peut pas étudier, donc tout le monde va... À partir du moment où tu te solidarises, parce que tu étais dans la vie de bar, donc même si après, dans le clan, tu ne vas pas être dans le clan, on va quand même te donner le titre d'avoir fait la chose. Donc, mais il y a quand même une condition pour tout ça. C'est quoi la condition ? C'était ma question du départ. C'est quoi la condition ? Non ! J'ai posé une question au départ du cours. C'est quoi la question du départ du cours ? C'est quand les 70 l'appellent la paracha, le livre, les nombres. Donc on a expliqué pourquoi les nombres, chacun était important. Mais le judaïsme l'appelle comment le livre ? Bamidbar. Et c'est là la réponse. C'est qu'il faut être Bamidbar. Il faut être un désert. Pour accepter, pour que ça marche, cette combine qu'on vient de faire, que je suis inscrit dans le recensement, numéris, je suis dans le compte, je suis dans le recensement, mais quand je ne peux pas y être, j'ai quand même droit aux avantages de ce que les autres savent faire et que je ne sais pas faire. Il faut une condition, celle-là. Pour que ça marche, il faut que tu sois parmi de bas, que tu sois désert. Voilà, il faut que tu sois annulé comme un désert. Il faut que tu acceptes de mettre qu'une virgule dans l'économie générale de tout le peuple juif. Pas de commencer à dire « et moi, et moi, et moi, et moi ». Tu n'es qu'une virgule. Si tu acceptes d'être une virgule, d'être un désert, automatiquement, tu n'es plus une virgule du tout, tu es le tout. Parce que tu as accepté de n'être rien, alors tu seras tout. Si tu veux être tout, tu ne seras rien. Donc on voit qu'effectivement, c'est relié avec ce qu'on a dit dans la Sfirat HaOmer. Pourquoi la Sfirat HaOmer, avec l'histoire des 24 000 morts des élèves de Rabbi Akiva, pourquoi ça précède Shavuot? Parce que avant Shavuot, ils n'ont pas eu l'annulation minimale d'accepter l'autre. C'est une épreuve très délicate chez eux, enfin, parce qu'ils étaient des grands, enfin, ils n'étaient pas des idiots. Comme dit le Rabbi Rayatz, quelqu'un qui est un crétin et un grossier personnage, il devrait se la fermer. C'est le minimum qu'il puisse faire. Et on voit que dans notre génération, c'est justement ces gens-là qui parlent le plus. C'est le tahlit de la grossièreté, c'est d'arriver à la génération où les gens sont vides et c'est eux qui osent le plus parler. Donc oublions notre situation à nous. Les gens des élèves du Rabbi Akiva, c'était des Tanaïm, c'était des gens qui étaient pleins, qui connaissaient toute la Torah, toute la vérité du monde. Ils connaissaient les langues, toutes les langues, les mathématiques, la science, tout ce que vous voulez. Pour dire que peindre, que mettre de la pommade, ça s'appelle peindre. C'est qu'ils étaient, ils avaient la carrure. Et ces gens-là, pitom, ils meurent. Tous, 24 000. Pourquoi? Parce que on vous dit qu'ils ont l'honneur à goût quand ça s'est passé. Ils n'ont pas eu l'honneur qu'il fallait l'un par rapport à l'autre. Ça veut dire que c'est une épreuve très délicate pour eux, parce qu'ils étaient conscients de leur grandeur. Donc il leur manquait cette dimension du midbar, d'être midbar, d'être rien. Et c'est effectivement, c'est très dur de n'être rien quand on est quelque chose. Quand quelqu'un n'est rien, alors c'est la moindre des choses qui se la ferme. Mais quand quelqu'un est, quand quelqu'un a de quoi dire, c'est quand même ralent de devoir se taire. Et c'est ça la clé. C'est que justement, plus tu es grand, plus tu dois te taire. D'avoir accepté l'autre. Dans sa mesquinerie, sa bêtise, sa petitesse. Donc c'est le sujet de Bamidbar. Si tu veux qu'on te compte, en te prenant, en disant, oulala, mais sans lui, le matin de Torah ne peut pas avoir lieu. Mais lui, mais c'est un moins que rien. Il est le 55e mille descendant de Reuven. Qu'est-ce qu'on a besoin de lui? Ah non, sans lui, il n'y a pas de matin de Torah. Il faut qu'il soit là. Donc on te dit, tu aurais pu dire, je ne suis rien et on ne me comptera pas. On te comptera, mon ami. Mais à condition que tu acceptes de n'être rien, c'est-à-dire de n'être qu'un 55 millième. Et à ce moment-là, on te donnera tous les avantages d'avoir été tout. On te félicitera pour la Torah alors que tu n'as pas étudié. On te félicitera pour la Tfila alors que tu ne sais pas prier. Et on te donnera une médaille d'avoir construit des beaux édifices du judaïsme alors que tu n'as pas donné un centime. Tu n'avais même pas de quoi faire Shabbat. Pourquoi? Parce que tu t'es solidarisé. Tu as dit nous. Et c'est pour ça que il y a les gens qui ont connu le rabbi, c'est très intéressant parce que, moi je me rappelle à Paris, comment c'était, le rabbi pouvait parler des heures sur les juifs de Russie. Hein, comment ils se trouvent, comment ils sont, tatati, tatata. Alors, il y avait des vikouchim là-bas à Paris, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors en vérité, c'est pas peut-être à toi de faire. Tu habites à Paris, c'est pas du tout ton rôle à toi de t'occuper de ce qui se passait en Russie à ce moment-là. Il y a des gens en l'ambassade américaine, ou des gens qui ont un pouvoir, ou des gens qui... Eux, ils sont faits pour ça. Alors pourquoi le rabbi parle à tout le monde, alors? Pourquoi le rabbi, il a besoin de rester une heure à parler des Juifs de Russie quand toi tu es à Paris et que ça ne te touche pas? C'est justement pour que tu te sentes solidaire de tout ce qui se passe partout. Même si tu n'as rien à faire, parce que ce n'est pas ton rôle, et ce n'est pas ton, du tout ta vocation, et on ne te reprochera même pas de n'avoir rien fait, il faut que tu dises « je me sens solidaire ». Vous voyez bien ce qui s'est passé avec l'histoire de Sharon. Dans le monde juif, qui c'est qu'ils ont filmé, les seuls qui participaient un peu à la solidarité avec les gens du Gouche-Katif? Les chassidim de Rabbi. Pourquoi? Parce qu'ils ont été éduqués à se préoccuper d'un sujet, même s'ils ne sont pas eux-mêmes impliqués là-dedans. Même qu'ils n'habitent pas à Gouche-Katif ou qu'ils habitent à New York, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris une gymnastique de solidarité. Que tout ce qui se passe dans le monde doit me concerner. Même si je ne peux rien faire, même si je n'ai même pas besoin de faire. Donc ça veut donc dire que le danger au matin de Torah, c'est de dire, moi je suis dans ma yeshiva à moi, j'ai mon groupe à moi, j'ai mes livres à moi, mon rav à moi, ma banque à moi, j'ai mon truc à moi, et le reste du monde ne m'intéresse pas. Je suis une tribu indépendante. Je dis, oui, tu es une tribu indépendante, mais tu vois bien que dans la paracha de Bamidbar, toutes les tribus sont là. Il n'y a pas qu'une tribu. Donc tu dois te solidariser si tu veux faire partie du... On ne t'a pas demandé de tuer ton individualité. On t'a demandé de te solidariser, même avec l'oreille, de ce qui se passe chez les autres. Même si tu ne peux pas être actif. Et vous voyez que non. Justement, c'est ce que dit la Gemara Sota à la fin des temps, avant que ma chère le vienne. Il y a écrit que nous serons, il y a écrit que la vérité, Aemet tiene ederet, il y a écrit, Aemet tiene ederet, avec Caïn. Alors, ederet, ça veut dire en même temps, la vérité va disparaître, ederet. Et adrout, ça veut dire qu'on va plus, elle ne va plus être là. Mais il y a un autre pshat, la Gemara, elle dit non, ederet, la chan, adarim, adarim, troupeau, troupeau, troupeau. La vérité va être, comment vous dites? Non, elle va être découpée en petits troupeaux, chacun sa petite vérité. Chacun sa petite vérité, et je m'en fiche de ta vérité à toi, je m'occupe de ma vérité à moi. Donc c'est pas, on voit bien que c'est pas du tout la situation avant la lune machère. Au contraire, avant la lune machère, c'est que chacun sa peau. Quoi. Que le monde s'écroule, moi je sauve ma peau. Donc on voit bien que c'est une grande tentation de dire, oulala, je n'ai pas besoin de me solidariser, je ferme la porte, je ferme mes oreilles, je ferme ma radio, je ne veux pas savoir ce que les catastrophes des autres et les problèmes des autres. Alors tu dis non, même si tu ne peux pas agir dans le monde entier, c'est vrai, mais au moins, solidarise-toi. Sache que ça existe. Et donc à ce moment-là, tu bénéficies de tout ce qu'il y a de bien chez tout le monde. Avez-vous une question? Non, parce que quelquefois, les gens tombent dans l'autre. L'autre problème, c'est d'être tellement solidaire qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le travail, c'est de justement de savoir où tu es, où tu dois agir, tu ne dois pas agir. Tu n'es pas obligé de te mêler de tout. Parce que tu ne peux pas te mêler de tout, mais tu ne peux pas non plus te détourner de tout. C'est un très gros travail de choix. Quand est-ce que je dois être impliqué activement dans une chose ou quand est-ce que je dois dire, bon, je l'ai entendu, mais je ne peux rien faire. Non, shalom. Mais c'est ça, c'est le travail de chacun. Chacun doit faire ce travail-là. Chacun doit faire son expérience. Il n'y a pas de clé pour vous dire, vous c'est ça, vous c'est ça, vous c'est ça. Chacun, il doit savoir ce qu'il veut lui faire sur terre. Il ne doit pas dire le... Qu'est-ce que je dois faire sur terre, dites-moi. Voilà, d'après ses compétences, d'après sa langue, d'après sa mentalité, d'après sa ville, chacun en fonction des conditions de providence dans lesquelles Dieu l'a mis. Donc voilà pourquoi il y a. Donc, la paracha, elle parle de l'individu, le règne de l'individualisme, et le matin de Torah, c'est le collectivisme. Hein. Et c'est pour ça que. Quand il y a écrit le tirtzar, tu ne tueras point. C'est pour ça que la mitzvah de la vache, de la génisse, à qui on frappait sur la nuque, Quand il y avait un mort entre deux villes, tout le monde devait dire nos mains n'ont pas versé ce sang. Pourquoi? Parce qu'effectivement, s'il y a eu quelqu'un qui a été un rotséar, un assassin, ne dis pas moi j'ai rien à voir là-dedans. Ne dis pas. Tu as un rapport avec cette chose-là, parce qu'il y a eu un crime. Par la solidarité de tout le monde, c'est que toi aussi tu es un criminel en puissance, en miniature. En finesse, tu es un criminel. Et le fait que tu te désolidarises des vrais criminels, il y en a des vrais criminels. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être toujours inquiet, pas se dire non, le crime, ça me touche pas du tout. J'aurais jamais l'idée de lotir tsar, tuer quelqu'un, jamais je n'aurais l'idée de le faire. Même en état de colère folle, j'irai jamais tuer quelqu'un. Concrètement, toi, tu n'iras jamais tuer quelqu'un, mais quelqu'un, lui, le fait. Il y a des gens qui le font. Donc, si l'autre le fait là-bas, tu dois te solidariser pour ne pas que ça arrive. C'est une chose indispensable. Pas de questions? Voilà. Mais tout dépend de la volonté d'être solidaire. Si tu te désolidarises, tu n'es pas bamidbar, alors c'est un problème. Même très finement, on peut être désolidarisé. Très finement, on peut dire, ok, c'est pas mon monde à moi. Comme il y a des gens qui ont dit, tant pis, l'équipe de Strougot sont fait jeter du mouchkatif, ça leur apprendra, ils avaient qu'à pas être sionistes. Ok, c'est vrai que ils sont rentrés dans un système qui les a amenés à ça. Mais toi, tu aurais dû leur parler même avant, même s'ils vont pas t'écouter. Pour leur dire, écoutez, les grandes kippot srougot, les grands députés, etc., ne vous inquiétez pas, ils n'ont aucune pitié de rien du tout, même des gens du mouche captif. Et ils les mettront dehors avec tout le monde. Donc ne vous donnez pas mettez pas tous vos œufs dans le même panier, et même s'ils ne t'avaient pas écouté. Mais vadaï. Mais vous devez le faire par solidarité. Pas pour vous venger avec le Shulchan Aruch. Pour lui mettre ça dans la figure. Vous devez en disant, écoute, on est ensemble, quoi. Par solidarité. Donc aussi, vous avez aussi été touché par ça. Pas en disant, il me fait du mal à moi, ce crétin-là. Non. Il nous fait du mal à nous. Si vous dites ça, alors la personne ne va plus accepter votre réflexion. Si vous dites « nous ». C'est vrai ? Et si vous dites « tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça », si vous dites « nous », tu nous fais du mal en faisant ça, en le pensant réellement, effectivement, la personne va dire « c'est vrai, je fais peut-être une bêtise ». Si vous lui dites « tu fais ça », en ayant l'air de dire « moi, j'ai rien à voir avec ça, mais c'est pour toi que je te parle ». Non, quand vous dites nous, toute personne qui se juge elle-même, elle n'est jamais mal vue par les autres. Toute personne qui se juge elle-même, elle n'est jamais vue. Hein? Quand quelqu'un dit je suis un imbécile, personne ne va dire mais non, tu n'as pas honte de dire ça. Quand quelqu'un dit je suis un imbécile, les gens disent oh, il a raison. Il a bien fait de parler comme ça. Alors, donc si vous dites tu es un imbécile, c'est très mal vu. Mais si vous dites nous sommes des imbéciles, alors qu'il y en a. Il n'y a qu'une personne qui a fait l'imbécile en face, c'est accepté aussi. Parce que vous avez parlé au pluriel. Nous sommes des imbéciles. Vous avez compris? Donc c'est la solidarité, ça doit être ancré en vous. Un réflexe, hein, oui. Alors qu'on est tous ensemble. Voilà, je vous souhaite à toutes un excellent Shabbat.